antichrist plutôt que ce qu'on prononce écrit habituellement en français, antéchrist. Dans vos dictionnaires, antéchrist. Vous le trouvez. Robert donne comme définition d'ailleurs, le mot est au petit Robert, ennemi du Christ qui, selon l'Apocalypse, viendra prêcher une religion hostile à la sienne un peu avant la fin du monde. C'est la définition. C'est la définition. Alors, on peut dire que le mot antéchrist ne trahit pas la substance des prophéties bibliques, puisqu'il suggère, comme le préfixe latin ante, la précédence dans le temps, il suggère que ce personnage viendra avant le Christ, et c'est bien le cas d'après les prophéties. Il n'y a pas trahison de la substance des prophéties bibliques, mais il y a trahison du sens du nom dans le Nouveau Testament. Car dans le Nouveau Testament, vous avez seulement le mot antichrist qui est utilisé, avec un préfixe donc grec différent du préfixe latin ante, préfixe anti, que nous avons aussi d'ailleurs repris en français, qui signifie soit l'opposition, comme en français, quand on dit quelque chose, être contre, soit la substitution. Pour ça, on oublie généralement, parce que nous n'avons pas repris le mot anti en français avec ce sens de substitution. Mais il est très très fréquent en grec, les deux sens sont à peu près aussi fréquents l'un que l'autre. C'est le mot anti qu'emploie Jésus lorsqu'il dit qu'il est venu donner sa vie en rançon pour plusieurs. C'est anti à la place de plusieurs, d'une multitude. C'est employé dans Matthieu 28. C'est le mot anti qui a le sens là manifestement substitutif. C'est pas le sens de l'hostilité, au contraire. Donc, anti-Christos, ça peut vouloir dire, et les spécialistes hésitent, soit le contre-Christ, l'adversaire du Christ, soit celui qui se substitue au Christ, qui le supplante, qui prend sa place, qui imite le singe du Christ. Moi, je suis assez porté à croire que les deux sens sont voulus simultanément, que ça fait une sorte de jeu de mots, que les deux sens sont à prendre ensemble, mais ça, nous pourrons voir ça un peu ultérieurement. Où se trouvent les textes qui intéressent la question de l'antichrist? Et en fait, c'était une surprise pour certains, on ne trouve le terme d'antichrist qu'une seule fois. Il est employé plusieurs fois dans ce passage, mais que dans un seul passage. Il se trouve uniquement dans la première épître de Jean, chapitre 2, quand le Robert dit que l'Apocalypse annonce, eh bien, c'est un petit peu étrange dans la mesure où l'Apocalypse ne prononce pas le nom d'Antichrist. Le nom d'Antichrist n'est pas utilisé dans aucun autre livre que la première épître de Jean. Alors je crois que nous pouvons lire le passage dans la première épître de Jean, parce qu'il est bien sûr d'une importance fondamentale. À partir du verset 18, dit donc la Bible à la colombe, « Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un Antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Vous-même, vous avez une onction de la part de celui qui est saint. Et tous, vous avez la connaissance. » Alors, pour bien comprendre d'ailleurs la force de cette parole, vous avez une onction. Il faut se rappeler que Christos veut dire « oint ». Que onction, c'est chrisma, de la même racine. Donc, vous avez d'un côté l'antichristos, les antichristos, les anti. Et vous avez une onction de la part de celui qui est saint. Je vous ai écrit, non parce que vous ne savez pas la vérité, mais parce que vous la savez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Donc, ni le Fils n'a pas non plus le Père, celui qui confesse le Fils a aussi le Père. C'est là le seul passage qui utilise l'expression même d'Antichrist, qui est, semble-t-il, significatif. Alors, il y a d'autres passages que pratiquement tous les commentateurs évangéliques s'accordent à mettre en parallèle avec ce texte de la première épître de Jean. Le texte qui est mis en parallèle le plus volontiers, et je crois que c'est à juste titre, c'est celui de la seconde épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2,
nous l'avons déjà étudié à propos de la question de la tribulation et de l'enlèvement. Le terme d'antichrist n'y est pas employé, dans 2 Thessaloniciens 2, mais vous y avez une similitude de structure extrêmement frappante avec la première épître de Jean. Et c'est ce qui me persuade, quant à moi, que c'est vraiment du même personnage que parle Paul. Paul, donc écrivant aux Thessaloniciens, les avertit de ne pas se laisser ébranler dans la saine raison croyante par de prétendues révélations qui lui seraient attribuées frauduleusement à lui, Paul, ou une révélation de quelqu'un d'autre. Ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration, ou par quelque parole, ou par quelque lettre qui nous serait attribuée, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, littéralement d'impiété, c'est-à-dire de rejet de toute loi, dit la note de la Bible de la Colombe. Le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et à se faire passer lui-même pour Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous? Et maintenant, vous savez bien ce qu'il retient pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. Car déjà, le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin qu'ils soient jugés, ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à la justice. Alors, il est appelé là, donc, homme de l'impiété. Le terme anomia vient de mon loi, et c'est pourquoi la note dit du rejet de toute loi. D'après des études que j'ai lues, il semble que c'était un terme qu'on tendait à réserver pour les manifestations les plus outrées de révolte contre Dieu, dans les derniers temps surtout. C'est de penser que l'humanité, là, manifesterait sa haine de Dieu et de sa loi d'une manière particulièrement aiguë. C'est le même mot que la première épître de Jean utilise aussi en disant que le péché, c'est l'impiété ou la transgression ou le rejet de la loi, c'est ce même mot anomia qui est employé dans 1 Jean un peu plus loin que le passage que nous avons lu il y a un instant. 1 Jean 3, 4, quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi, ce même mot qui traduit ici violation de la loi, et le péché c'est la violation de la loi. La note dit littéralement le fait d'être sans loi, mais c'est le même mot que dans la seconde Thessalonicien. L'homme donc, dont il est question dans 2 Thessaloniciens 2, c'est un homme en qui la révolte contre Dieu et sa loi, révolte que l'on savait devoir éclater à la fin des temps, est comme résumé et concrétisé. C'est l'homme qui est caractéristique de ce mouvement-là. Donc, c'est pas simplement toute transgression qui est évoquée, mais c'est la transgression dans sa virulence la plus grande. Alors, il est appelé donc homme de cette anomia, impiété, rébellion finale et fils de perdition, l'être perdu par excellence. Il y a un seul homme qui soit appelé de cette manière aussi. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul, en tout cas je n'ai pas vérifié, vous le savez, c'est Judas. Judas est appelé fils de perdition. Et puis, cet homme final qui, d'une part, s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, qui est l'adversaire, contre, et qui d'autre part va s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu, donc il supplante, il prend la place. Et là, il y a une affinité avec le sens, le nom même d'Antichrist, que j'ai exposé tout à l'heure. Alors, ce qui me semble être une similitude de structure particulièrement frappante avec 1 Jean 2, et qui me fait dire c'est le même homme qui est en cause, c'est le même personnage, c'est que dans la première épître de Jean dit clairement, il y a un antichrist qui vient. Vous avez entendu dire qu'un antichrist venait. Et je crois que Jean ne veut pas dire vous aviez tort. Il s'appuie sur le fait qu'ils savent déjà la vérité. Vous avez entendu dire qu'un antichrist venait, comme personnage de la dernière heure. Eh bien, il y a déjà des antichrists. ce qui vous prouve que vous êtes déjà au fond de la dernière heure. Ce personnage vient comme le personnage du dernier moment, mais ce dernier moment, nous en sommes proches, c'est dans la même phase de l'histoire que la nôtre, ce qui veut dire que ce qu'il sera se manifeste déjà dans certains autres individus qui sont sous vos yeux, et qui essaient de vous détourner d'ailleurs de la foi. Voilà la manière de penser de l'apôtre Jean dans 1 Jean 2. Hein, vous êtes d'accord? Vous suivez ce que je dis là. Un antichristien, personnage de la dernière heure, eh bien, il y a déjà plusieurs antichrists. Des préfigurations très ressemblantes de celui qui est attendu, ce qui vous prouve que nous sommes dans les derniers temps. Voilà la manière de raisonner de l'apôtre Jean. Or, la manière de raisonner de l'apôtre Paul semble assez proche, puisqu'il dit le mystère d'iniquité agit déjà, déjà à l'œuvre de cette puissance qui correspond à l'homme impie qui est à venir. L'homme impie lui-même ne sera dévoilé qu'en son temps, quand ce qui le retient sera enlevé, ce qui veut dire que l'esprit de ce personnage final est déjà à l'œuvre, qu'il y a déjà des préfigurations, des préparations de ce qu'il sera, mais qu'il y a quand même encore quelque chose à attendre, un paroxysme. C'est la même structure que chez Jean. Quelque chose à venir, suprême, et quelque chose de présent, qui est déjà l'avant-goût, au fond, de cette chose à venir.
Est-ce qu'on peut considérer que l'incarnation de Jésus, dans sa première venue, inaugure cette ère des temps de la fin? Et est-ce que le rejet dont il a été rejeté est déjà une sorte de prélude de cette révolte profonde de l'homme qui culmine avec l'Antichrist?
Je pense qu'on peut dire que après la première venue, les derniers temps ont commencé, que beaucoup de textes du Nouveau Testament l'impliquent, par exemple 1 Corinthiens 10, toutes ces choses dans l'Ancien Testament ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ou bien acte 2, à propos de la citation de Joël, dans les derniers temps, c'est maintenant. Cette idée est encore le début de l'Épître aux Hébreux, par exemple. Donc le fait que nous soyons dans les derniers temps, ça c'est très bien attesté dans le Nouveau Testament. Mais est-ce qu'il faut comprendre, comme tu le suggères, c'est très intéressant, est-ce qu'il faut comprendre que le rejet de Jésus par la masse du peuple juif est déjà une première réaction d'antichrist? J'inclinerais plutôt à répondre non, parce que j'ai une petite idée derrière la tête que j'ai posée tout à l'heure, quant à la signification même de l'antichrist. Il me semble que c'est une démarche qui vient après celle-là, que ce n'est pas la démarche du rejet qui est la première démarche, Jésus qui se présente, non. C'est la simple réaction de l'incrédulité. La réaction de l'antichrist, elle, la démarche qui correspond au mystère d'iniquité et à l'esprit de l'antichrist, est une démarche plus subtile, c'est celle qui est décrite par le terme d'apostasie dans 2 Thessaloniciens 2. Or, l'apostasie, c'est une sorte de rechute, de retombée après une apparence de profession de foi saine. Je crois que la démarche de l'antichrist est une démarche beaucoup plus rusée que ce nom des pharisiens qui dit non devant Jésus. C'est une démarche qui pervertit et qui singe Jésus. C'est pour ça que c'est beaucoup plus subtil et que ça vient en deuxième lieu. Alors, nous y reviendrons peut-être un peu tout à l'heure, puisque j'ai déjà commencé d'expliquer un peu ce qui, pour moi, est le mystère de l'Antichrist, dans son fond. Mais passons encore en revue les textes. Il y a, après ces deux textes, qui sont les deux textes sans doute les plus précis, deux autres textes du Nouveau Testament qui semblent aussi avoir trait à l'Antichrist, des ensembles assez vastes. Il y a les discours de Jésus, avant qu'il soit retiré à ses disciples, le grand discours sur les choses de la fin de Jérusalem, d'une part, la fin du système judaïque, qui s'est écroulé en 70, parce que Jérusalem a été prise, et puis la fin du monde que cet événement de la fin de Jérusalem préfigurait. Alors, il y a les discours de Jésus qui parlent de non pas d'antichrist, mais de pseudo-christ. C'est pas le préfixe anti, qui est employé, mais le préfixe pseudo. Je crois que Jean a changé le préfixe dans son épître pour pouvoir avoir le jeu de sens contre et à la place de pseudo donnant uniquement le deuxième sens. Mais je pense quand même que Jean a voulu faire la correspondance, qu'il a voulu donner comme l'écho de cette parole de Jésus sur les faux Christ et les faux prophètes qui doivent le précéder l'avènement du Fils de l'homme. Donc c'est dans Matthieu 24 et les textes parallèles dans les autres évangiles que nous avons ces annonces. Jésus, vous le savez, annonce, quand on lui pose la question, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Il dira qu'il y aura des persécutions, des famines, des tremblements de terre, etc. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. En raison des progrès d'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. La bonne nouvelle aussi sera prêchée au monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et au verset 24, au verset 23 déjà, il dit, si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront de grands signes et des prodiges au point de séduire, si possible, même les élus. Je vous l'ai prédit, etc. Donc nous avons là l'annonce de faux Christ, feront des prodiges, exactement comme l'homme d'impiété dans 2 Thessaloniciens 2, et avec un nom qui correspond assez bien au mot d'antichrist employé par la première de Jean. Donc on peut faire la correspondance, je crois. Alors on remarque que dans Matthieu et les autres évangiles, il y a le pluriel seulement. Jésus parle de plusieurs faux Christ, pseudo-Christ, et non pas d'un seul. Et puis, l'autre ensemble de textes, c'est l'ensemble des visions de l'Apocalypse qu'il nous présente à partir du chapitre 13, une première bête qui est en quelque sorte actionnée par le grand dragon, par le serpent ancien, par Satan. Une bête qui reprend plusieurs des traits des bêtes que l'on voit dans les visions de Daniel. Je lis à partir du premier verset au chapitre 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête. Ils se prosternèrent devant le dragon, parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Ils se prosternèrent devant la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut la combattre ?» Il lui fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa gueule en blasphème contre Dieu, pour blasphémer contre son nom, son tabernacle et ceux qui l'habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle, ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Et alors, après ça, il est question de la deuxième bête, dont nous parlerons au principe en octobre. Mais au verset 18, on peut remarquer que, après qu'il ait dit que nul ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom sur la main et sur le front, il est dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. Alors il est ensuite question dans les chapitres qui suivent de la bête, au chapitre 16, il y a déjà des annonces qui semblent se rapprocher de celles de la bête, enfin, c'est pas encore directement la bête, mais c'est surtout au chapitre 17 et 18 qu'il est question de la bête à nouveau, avec la bête qui sert de monture à une femme pleine de noms de blasphème, qui avait 7 têtes, enfin, c'est la bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, donc c'est comme celle du chapitre 13, et qui semble exactement la même puisque au verset 8, il est précisé, la bête que tu as vue était, elle n'est plus, elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Et les habitants de la terre dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, et ça correspond à ce que nous venons de lire, s'étonneront à la vue de la bête parce qu'elle était, qu'elle n'est plus, qu'elle reparaîtra. Ce qui correspond là à la blessure mortelle dont la bête est guérie, au contraire, d'une manière qui suscite l'admiration universelle. Il faut ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés, l'un existe, l'autre n'est pas encore venu. Quand il sera venu, il doit rester peu de temps, ou un peu de temps. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi. Elle est aussi l'un des sept. Vous voyez les complications. Elle est aussi l'un des sept et elle s'en va à la perdition. Donc c'est la bête, tout entière. Mais c'est aussi l'une des têtes parmi les sept, et c'est encore une huitième tête, en vertu de ce schéma qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Donc, vous avez cet ensemble. Cette bête semble tout à fait correspondre à l'adversaire final du Christ. Et en général, on pense qu'il s'agit de l'Antichrist dont la première épître de Jean nous parle. Bien que le nom ne soit pas employé, on est obligé de le reconnaître. Dans cet élément de la blessure à mort et de cette guérison étonnante, on voit comme une singerie de la résurrection du Christ, de la mort et de la résurrection du Christ. C'est le faux Christ, l'antichrist, qui essaye de le singer. Dans le nom même qui est donné, elle est, elle n'est plus, elle reparaîtra, il y a une singerie du nom divin, qui est aussi mentionné dans l'Apocalypse, le nom de l'éternel, il est, il était, il vient. C'est une singerie diabolique, en quelque sorte, qu'on trouve dans cette bête. Et le terme même employé, reparaîtra, c'est le terme duquel vient le mot parousie, dont nous avons parlé pour le Christ. Vous voyez, tous ces détails sont des détails qui suggèrent une correspondance au Christ, mais pour le singer, s'opposer à lui. Alors, il semble bien qu'on soit en droit de dire cette bête, c'est l'Antichrist qui vient d'après 1 Jean 2. Et on retrouve en un sens le schéma de ce mystère d'iniquité, de ce mystère d'Antichrist, déjà à l'œuvre aujourd'hui avec beaucoup d'Antichrist, et puis d'un Antichrist qui vient ultimement, dans le fait que la bête, c'est à la fois la bête, et puis une tête de la bête. Et même une tête présente et une tête à venir. C'est cette même dualité. C'est quelque chose qui est déjà présent et à l'œuvre dans notre histoire, mais qui pourtant aura une manifestation suprême à la fin. Donc ces passages, quand je suis prêt à dire, il faut les étudier comme des passages qui se correspondent et qui nous parlent du même mystère du déroulement de l'histoire, du plan de Dieu. Alors dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, je ne verrai plus guère de textes à mentionner. Dans l'Ancien Testament, quels sont les passages que l'on peut évoquer? Dans Apocalypse 13, il y a une citation expresse de Daniel 7. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et on peut donc penser, je ne crois pas absolument obligé, on peut donc penser que la vision de Daniel 7 est aussi une vision qui nous parle de l'Antichrist. L'objection qu'on pourrait faire, c'est que dans Daniel 7, vous avez quatre bêtes. Et que la bête de Daniel 13, d'Apocalypse 13, je veux dire, synthétise les quatre de Daniel 7. Dans Daniel 7, vous avez le léopard, l'ours, le lion, et puis finalement la bête innommable. Et puis dans Apocalypse 13, vous avez une seule bête qui compose les caractères des autres. Elle est semblable à un léopard avec des pattes d'ours et une gueule de lion. Alors on pourrait dire, donc ce n'est pas la même que la quatrième de Daniel. Je pourrais le plaider, mais personnellement, je pense quand même que Jean a voulu parler de la quatrième bête de Daniel, en disant, mais cette quatrième bête horrible, et qui n'est même pas nommée dans Daniel, elle récapitule en elle tout ce qui a caractérisé les empires mondiaux, donc elle a aussi le corps du léopard, les pattes de l'ours, la gueule du lion. Il semble que c'est ça l'intention de Jean lorsqu'il a repris les éléments de la vision de Daniel. Alors, dans le livre de Daniel, au chapitre 7, donc la quatrième bête, la plus terrible, a un élément qui attire l'attention. Elle a une apparence terrible, des dents de fer, etc. Mais surtout, parmi les cornes qu'elle a, elle a 10 cornes, parmi les cornes qu'il a, une petite corne sort en supplantant 3 premières cornes arrachées devant elle, ce qui correspond d'ailleurs au chiffre de 8 auquel on arrive dans Apocalypse 17, hein, puisque ça fait, elle est la 8e. Ici, 10, 3, elle fait la 8e, petite corne. Alors, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, une bouche qui parlait avec arrogance. Et c'est cette petite corne grandie sur la 4e bête de Daniel qui fait la guerre au sein du Très-Haut et à qui il est donné de les vaincre pendant un certain temps, en fait, 3 temps et demi, 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. N'est-ce pas?
Est-ce que vraiment on peut penser à ces 3 années? Est-ce que vraiment c'est...
Alors, je crois qu'on pourra y revenir. Peut-être pas aujourd'hui, je ne sais pas si on a encore de temps, mais la fois prochaine. Je crois que ce serait intéressant d'essayer de déterminer s'il y a une interprétation littérale à donner de ces indications de temps. Dans l'Apocalypse, c'est 42 mois. Vous avez remarqué.
Oui, j'ai remarqué. Qui...
Alors, 42 mois correspondent à 3 fois 12 et demi. Donc, à 3 ans et demi. C'est un argument pour dire qu'il y a équivalence. Mais est-ce que ça veut dire un sens littéral? Ça, on peut en discuter. Bon, enfin, continuons notre recensement dans des textes. Vous avez Daniel 7. Il me semble difficile de nier que Daniel 7 soit en cause. Ça me semble difficile, mais ça ne me semble pas impossible. Hein, je le reconnais. Mon interprétation, c'est que Daniel 7 parle de l'Antichrist aussi, que la petite corne de Daniel 7, c'est l'Antichrist. Mais il serait possible, à la rigueur, de dire non, c'est un autre royaume antérieur, c'est un autre persécuteur. Et Jean, dans Apocalypse 13, se contente de reprendre la formule par la guerre au sein, sans dire que c'est le même personnage. Jean ne nous dit pas, dans Apocalypse 13, c'est ici celui dont Daniel a parlé. Il reprend une formule, alors. C'est une présomption en faveur de l'identification, mais ce n'est pas une preuve absolue. Alors, beaucoup d'évangéliques seraient prêts à ajouter Daniel 9 à cet ensemble de textes sur l'Antichrist. L'interprétation que je ne suis pas, mais nous aurons peut-être la fois prochaine l'occasion d'y revenir, de Daniel 9, 26, c'est que le prince qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, dont la fin arrivera comme par une inondation, c'est l'Antichrist, donc Daniel 9, 26, B, après les 62 semaines, et puis que c'est aussi lui qui est le sujet du verset 27. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur ira à l'extrême des abominations jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Beaucoup donc d'évangéliques, ceux de la tendance dispensationaliste essentiellement, M. Bach, etc. Il s'agit aussi de l'Antichrist. Donc dans Daniel 9, 26b et 27. Alors personnellement, je ne pense pas que ce soit la bonne interprétation, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Pour le moment, nous faisons un recensement. Outre ce passage dans l'Ancien Testament, il y en a, je crois, 2 autres que l'on peut aussi éventuellement rattacher au cycle des prophéties d'Antichrist. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 38-39, nous avons un certain Gog, à la tête d'une coalition, Gog, qui vient, semble-t-il, de Magog, qui est situé en Asie mineure, semble-t-il, d'après Genèse 10. Ce Gog fait figure de grand adversaire final de l'Éternel et de son peuple, de grand persécuteur, et pour cette raison, il me semble qu'on pourrait identifier avec la Russie. Certains ont voulu l'identifier avec la Russie, mais alors à la faveur de ressemblances phonétiques tout à fait fantaisistes, disons certains ont dit roche, qu'à mon avis il faut traduire, parce que c'est un nom commun en hébreu, il faut traduire chef, c'est le prince chef, le prince suzerain de la coalition, est disparu, donc on sait qu'elles sont associées dans sa fibre de la petite mineure dans Genèse 10, mais c'est tout ce qu'on sait. Mais pour Meshech, la question souvent, il en est question même dans un psaume, un des psaumes des degrés, l'échec. Et ce n'est pas la même Moscou. Phonétiquement, une relation toute superficielle de ressemblance pour nous, mais quand on considère les langues originelles aussi bien pour le russe que pour l'hébreu, là, il n'y a plus du tout cette proximité.
Je crois qu'ils ont été incités par cette lecture. Par les à cette lecture par les indications qu'il y a dans le texte d'Ézéchiel sur la position géographique de ce roi du Nord. Je ne veux pas que c'est ça qui a les incité à lire ainsi Roche, Méchec.
Mais c'est seulement des mineurs qu'Ézéchiel fait venir cette horde, ou alors de pays situés au contraire au sud. Il les fait venir de tout le pourtour du Moyen-Orient. Mais oui, mais c'est le septentrion par rapport à Israël, c'est-à-dire l'Asie mineure, c'est le nord, n'est-ce pas? C'est le septentrion pour la Palestine. Alors ça ne signifie pas du tout au-delà de la mer Noire. Alors il est question aussi de roi du nord à la fin du livre de Daniel, la fin de Daniel 12, il est question aussi d'un roi du nord, et certains y verraient l'Antichrist, d'autres, dans la même école d'interprétation même, un adversaire de l'Antichrist. Je crois qu'il faut laisser cette question de la fin de Daniel 12, non, de la fin de Daniel 11, excusez-moi, de côté. Donc certains verraient Daniel 9 comme un texte sur l'Antichrist, et ils en tirent même certaines conséquences précises quant à la chronologie, ou de la semaine, et de la moitié de la semaine. Et certains même plus que de la chronologie. Certains à propos d'une alliance qui serait faite avec Israël, Israël charnel. Et toutes ces questions que nous devons débattre ce trimestre se retrouvent un peu imbriquées les unes dans les autres. Ézéchiel, Daniel, Ézéchiel et Zacharie. Zacharie aussi pourrait viser éventuellement la personne de l'Antichrist à la fin de Daniel et de Zacharie 11. Le récit du rejet du bon pasteur, du bon berger, de l'éternel berger de son peuple. Nous avons au verset 15, l'Éternel me dit, prends encore l'équipement d'un berger insensé. Car voici que moi-même je fais surgir dans le pays un berger qui n'interviendra pas en faveur des brebis qui sont sur le point de disparaître, qui n'ira pas à la recherche de la plus jeune, qui ne guérira pas celle qui est blessée, qui n'alimentera pas celle qui est debout, mais qui dévorera la viande de celle qui est grasse et déchirera jusqu'à la corne de leurs pattes. Malheur au faux berger qui abandonne les brebis, que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit, que son bras se dessèche complètement et que son œil droit s'éteigne tout à fait. Alors, on peut dire que c'est un faux berger, un mauvais berger, qui correspond ici au bon berger, rajouté. Donc, c'est une sorte d'antichrist. Si le bon berger est le Christ, je crois que c'est bien l'interprétation du passage, alors la fin du chapitre pourrait évoquer à la rigueur l'antichrist. Mais ce n'est pas, me semble-t-il, aussi certain que pour d'autres passages. Ce qui serait le plus grand obstacle à cette interprétation, à mes yeux, c'est que ce mauvais berger semble surgir tout de suite après le rejet du bon berger. Donc ça semblerait caractériser une suite de la première venue et non pas ce qui précède la seconde venue immédiatement. Alors je crois qu'avec cette revue de texte, nous avons tous les textes importants qu'il nous faut considérer. Dans l'Apocalypse, bien sûr, il y a pas mal de détails que nous n'avons pas eu le temps de prendre en compte dans notre lecture rapide. Quels sont les grands problèmes d'interprétation qui se posent à propos de ces passages et donc du personnage de l'Antichrist? Je pense que le premier et le plus important endroit, c'est celui de la conception même qu'on se fait. S'agit-il d'un individu déterminé? S'agit-il d'une personne précise qui doit venir, ou bien ne s'agit-il que d'une figure qui représenterait autre chose qu'un individu, par exemple un type d'homme,
un gouvernement,
une collectivité. Je crois qu'il n'est pas absolument impossible d'admettre cette idée d'une représentation d'une collectivité, par exemple, ou d'un type d'homme. Quand on lit 2 Thessaloniciens 2, par exemple, on peut très bien mentalement avoir dans l'esprit l'idée type d'homme, et ça se lit bien. Il faut que vienne le temps d'apostasie, il faut que vienne le temps où ce type d'homme surgira, un type d'homme caractérisé par la révolte contre Dieu, le rejet de sa loi et l'apostasie, parce qu'il aura été marqué par le christianisme auparavant. Ce type d'homme doit surgir, il est encore retenu. On peut lire le texte comme ça. Rien ne s'y oppose formellement. En faveur de l'idée que c'est un type d'homme aussi, il y aurait le pluriel dans les paroles de Jésus. C'est peut-être l'argument le plus fort, à mon avis, en faveur d'une interprétation plutôt collective de cet antichrist, puisqu'on prend ce terme de la première de Jean pour un peu tous les passages. On pourrait dire, Jésus dit des faux Christ, donc c'est plutôt une catégorie qu'il a en vue. Mais en faveur de l'interprétation individuelle, il me semble qu'il y a aussi des arguments très, très forts, et personnellement je les trouve plus forts, au bout du compte. En faveur de l'interprétation individuelle, il y a d'abord cette dualité qui est si sensible dans 2 Thessaloniciens 2 et 1 Jean 2. Si c'était une catégorie d'hommes, pourquoi faire cette différence entre le mystère d'iniquité qui agit déjà, qui est en quelque sorte se trouve représenté par bien des individus, et puis alors un accomplissement suprême encore à venir? Si c'était une catégorie, la frontière entre ce qui se passe déjà maintenant et ce qui va venir se trouverait en quelque sorte comme assurée, comme estompée.
On ne pourrait pas penser que justement ces faux prophètes un peu avant l'Antichrist, ce ne serait pas justement préparé par Satan justement pour brouiller les cartes un peu, pour préparer dans un sens les fous là, à accueillir un Antichrist, hein. Un type d'homme ou un gouvernement, ou un être particulier, enfin disons,
oui.
D'abord pour préparer les mentalités.
Oui. Ah oui, il ne s'agit pas du tout de nier qu'il y aura plusieurs faux Christ, mais pas comme 1 Jean 2 dit plusieurs antichrists dès le temps présent, ils s'en manifestent. Mais il s'agit de dire, c'est là mon argument, le contraste qui est fait dans 1 Jean et surtout dans 2 Thessaloniciens 2 entre l'action présente et puis ce qui vient me semble favoriser une interprétation individuelle, que finalement il y en aura un seul suprême. Donc ça c'est le premier argument que je fais valoir en faveur de l'interprétation. C'est vraiment une personne qui sera préparée par des collectivités, par la mentalité générale de l'humanité, mais quand même finalement un. Autrement, le contraste qui est fait dans 2 Thessaloniciens entre l'action du mystère et puis la révélation suprême de cet homme d'impiété serait moins fort. La deuxième raison, et j'en ai pratiquement pas d'autre d'ailleurs, mais la deuxième raison, elle me semble aussi très forte, c'est que d'après ces textes, il y a vraiment un effort de singerie du Christ. Vraiment, c'est surtout dans l'Apocalypse que cela est élaboré systématiquement, mais Satan suscite dans cette bête un imitateur du Christ qui essaie de le supplanter. Or, le Christ a été un individu, un homme précis et déterminé. Et il me semble que Satan se montrerait moins malin, si j'ose dire, qu'il ne l'est, s'il ne suscitait pas, finalement, dans son effort pour contrer l'œuvre de Christ, un antichrist déterminé. La loi d'imitation qui régit, semble-t-il, l'effort satanique n'irait pas jusqu'à son terme s'il n'y avait pas un antichrist déterminé. Alors, c'est comme ça que je conclus, pour ma part, quand même, qu'il y a très probablement un antichrist particulier qui est annoncé. Ça, c'est sur la première et grande question. Maintenant, la deuxième question est aussi assez importante. C'est celle de disons de la catégorie dans laquelle cet antichrist final s'inscrira, s'il ne déborde pas toutes les catégories. En gros, surtout, s'agira-t-il d'un homme politique ou d'un docteur religieux, d'un prédicateur? Vous avez remarqué que le Robert dit, comme c'est une chose absolument assurée, il viendra prêcher une religion hostile. C'est étonnant que ça ait été retenu par ces gens qui sont peu frottés de théologie ou d'études des prophéties. Il me semble que les textes que nous avons semblent un peu diverger quant à ce point précis. Et peut-être faut-il tenir finalement les deux ensemble. Les textes de Daniel, Daniel 7, de l'Apocalypse, suggèrent plutôt un homme politique, un roi qui détient, comme ces empereurs qui sont évoqués dans Daniel 7 avant lui, détient le pouvoir politique. Dans l'Apocalypse, c'est ce qui semble. Par contre, dans 1 Jean 2, on penserait plutôt à un docteur religieux, à un théologien, si vous voulez. Car les antichrists, qui sont ces préfigurations, qui sont en cause dans le passage, qui l'annoncent, ce ne sont pas des hommes politiques. Il n'y a pas le moindre doute, là, ce sont de faux docteurs qui étaient auparavant des membres de la communauté chrétienne, qui sont sortis de chez nous, mais qui diffusent maintenant des doctrines qui touchent particulièrement la personne de Christ, qui nie le Père et le Fils. Donc ce sont de faux docteurs, on les connaît historiquement d'ailleurs, il y a certainement Sérinthe qui est parmi eux, qui vivait au temps de l'apôtre Jean et que Jean a combattu à Éphèse. L'histoire donc nous rapporte là suffisamment de détails pour que nous puissions faire la correspondance. Ces antichrists dont il est question dans Jean 2, ce sont les premiers docteurs gnostiques, comme on les appelle, qui forgeaient une fausse christologie, qui séparait le Père et le Fils, qui ne reconnaissaient pas la pleine divinité ni la pleine humanité de Jésus-Christ, qui avaient fait profession de foi chrétienne, donc ils étaient sortis de chez nous, qui n'étaient pas vraiment régénérés, parce que s'ils étaient régénérés, ils auraient persévéré. Mais ils étaient superficiellement chrétiens, et ils ont apostasié de cette foi chrétienne qu'ils avaient professée pour enseigner des doctrines de démons. Pas des hommes politiques, plutôt donc des théologiens d'erreur. Alors, les autres passages de Thessaloniciens 2, on pourrait les comprendre un peu des deux manières. Évidemment, on pense à un homme politique à cause du grand pouvoir qu'il semble avoir. Mais d'autre part, il fait des miracles, des signes et des prodiges. Et le Christ lui-même est venu non comme un homme politique, mais en faisant des miracles, donc les faux Christ, on pourrait dire qu'il y a des chances pour qu'il se présente aussi à la manière de prédicateur et de faiseur de miracles. Alors ces textes-là, donc, ne permettent pas de trancher tout à fait. Alors comment conclure sur ce second problème d'interprétation, homme politique ou leader religieux? Le plus facile, c'est de dire ça. Le plus facile, c'est de dire ce pourrait être les deux. Oui.
Et dans les époques très religieuses, aujourd'hui, il y a une déchristianisation et une athéisation du monde assez forte. Et alors, comment dans l'appareil politique pourrait trouver place des éléments si nettement religieux? Évidemment, avec le nazisme, on a vu une synthèse assez réussie de la chose, finalement.
Oui,
avec même des prières.
Qui rendaient grâce au début de leur repas en remerciant Hitler, le Führer, pour la nourriture qu'ils avaient partagée. Oui, et du côté du système communiste également, on a des traits vraiment religieux. Non seulement le langage utilisé pour louer Staline, mais aussi le fait que Staline a joué le rôle d'un philosophe, c'est-à-dire finalement d'un docteur, d'un théologien du communisme, n'est-ce pas ? Staline a écrit des ouvrages théoriques qui sont formellement du domaine de la philosophie. C'était assez rudimentaire et grossier, mais enfin, il déterminait l'orthodoxie pour toutes les masses qui étaient soumises à son pouvoir. Donc, je pense qu'en l'état actuel de nos connaissances et devant ces textes, le plus facile au moins, et il n'y a pas de raison de chercher la difficulté, le plus facile c'est de dire, probablement il y aura comme une convergence des deux en ce personnage d'Antichrist, à la fois faux docteur et homme politique.
C'est peut-être plus facile pour rallier une majorité d'ailleurs.
Oui, oui, oui.
Mais je crois qu'à travers les âges, il y a toujours eu des gens de ce genre. Et je crois que ceux qui prétendaient que le pape était une figure d'antichrist il fut un temps où c'était vrai. Et il y avait des empereurs qui se présentaient comme des leaders religieux, comme des qui se faisaient adorer, des choses comme ça, mais ça s'est toujours passé. Mao Tse-tung en Chine, c'était la même chose.
Oui, c'est là que nous pouvons utilement, me semble-t-il, évoquer cette structure de Thessaloniciens 2 et de Jean 2. Il y a déjà des antichrists qui annoncent l'antichrist final. Il y a déjà une action du mystère d'iniquité, encore retenue, mais déjà reconnaissable. Il me semble que
là, dans cette deuxième question que tu poses, savoir dans quelle catégorie il va s'inscrire, le politique ou le religieux, tu parles déjà comme s'il incarnait tous ces pouvoirs-là, le politique et le religieux. Est-ce qu'il n'y a pas des interprétations selon lesquelles la seconde bête, le faux prophète, accomplirait cet office religieux et guiderait ce culte-là, et l'autre bête conservant les caractères politiques? Est-ce que tu as déjà opté là ou...
J'ai opté, je dirais, contre l'utilisation de cette adjonction de la deuxième bête comme une solution au problème que je posais. Je crois que si la seconde bête a un rôle plus spécifiquement religieux, ça ne résout quand même pas le problème de savoir si la première bête n'est pas religieuse elle aussi. Il me semble que les textes que nous avons vus, en particulier celui de Jean 2, nous laissent ce problème. Et si la seconde bête a un rôle religieux peut-être plus exclusif, ça n'empêche pas que la première doit aussi être considérée comme, disons, maîtresse en matière de doctrine et de pratique. Et se donne à l'adoration. De la deuxième bête, je pense que nous devrions parler en octobre, donc je ne veux pas développer, mais il me semble que, de toute façon, il faut préserver un rôle religieux pour la première bête, d'après certains passages. Alors nous considérons donc que les deux seraient associés. Ces deux questions, à peu près résolues, il en reste beaucoup de détails. Je pense qu'on peut dire qu'il y a eu deux interprétations, qu'il y a peut-être encore aujourd'hui deux interprétations particulièrement précises, détaillées et fortes, donc de ce fait, du personnage de l'Antichrist, compris comme individu, au moins dans une certaine mesure, y compris comme détenteur de pouvoir religieux et politique à la fois, celle de la papauté que M. Berger évoquait tout à l'heure, et celle qui est surtout répandue dans le milieu chrétien évangélique et qu'on trouverait par exemple dans les ouvrages de M. Pache. Je crois que ce sont les deux types d'interprétations qui vont le plus précisément dans le détail. La première interprétation, celle de la papauté, je crois que nous devons prendre conscience du fait qu'elle a été extrêmement répandue après la réforme. D'ailleurs, elle a même eu quelques précurseurs, si je me souviens bien, mais surtout à partir de la réforme, pendant pratiquement deux siècles. J'ai lu qu'au XVIIe siècle, par exemple, il n'aurait pas été question de permettre à un théologien protestant d'occuper une chaire de théologie s'il n'avait pas souscrit à la thèse que l'Antichrist est le pape. C'était vraiment une évidence, une chose parfaitement assurée pour les héritiers de la réforme à cette époque. Et il me semble que nous devons dire qu'effectivement, le dossier était extrêmement persuasif. Vous mettez la peau des jeunes, des chrétiens évangéliques de l'époque, et vous dites qu'effectivement le pape, qui était leur persécuteur, qui leur faisait la guerre autant que la corne de Daniel 7 a jamais fait la guerre aux saints, que ce pape correspondait singulièrement bien à tout le schéma que nous avons détenteur du pouvoir politique à l'époque. C'était quelque chose de plus considérable encore qu'aujourd'hui. Bien sûr aussi, docteur du christianisme et pensaient les héritiers de la réforme faux docteurs, apostats, professant une foi chrétienne profondément adultérée, qui, dans ses implications profondes, nie le Père et le Fils, malgré l'orthodoxie des credos officiels. Non, on peut considérer que la théologie catholique, par implication, verse dans un polythéisme, par exemple, tout à fait opposé au Père et au Fils. Et donc, ils pouvaient dire, c'est vraiment un antichrist comme un Jean II en décrit, que ce pape, et puis alors il correspond à la description de Saint-Nicien II de façon extraordinaire, puisqu'il s'assied dans le temple même de Dieu.
Et Rome, la ville des sept collines.
Et alors en plus, il y avait l'association à Rome, la ville des sept collines. Pratiquement tous les commentateurs sont d'accord pour dire que dans Apocalypse 17, les sept collines, ce sont les collines de Rome. Donc que c'est Rome qui est ici, Babylone. Or, qui pendant le Moyen-Âge, au XVIe et au XVIIe siècle, portait la Rome païenne, on avait repris la culture, le rayonnement, etc. Ben, c'était le pape. Pas le moindre doute, c'est la papauté qui portait la vieille Rome païenne.
Tu as lu le livre de Babylone?
Non, je n'ai pas lu le livre de Babylone. Non, non.
C'est extrêmement
intéressant. Mais il n'y a pas tout.
Franchement, son fulgurant. Hein.
C'est fantastique.
Mais l'héritage de tout, disons, de tout l'Orient ancien, de tous les vieux mythes babyloniens, concernant la personne du souverain pontife, c'est quelque chose qui est très très frappant. Ouais.
Se prétendant lui-même Dieu, mais le titre officiel du pape, c'est vicaire du Fils de Dieu, c'est-à-dire le substitut du Fils de Dieu. Nous avons écrit notre éditorial du prochain Ictus sur ce titre, souverain pontife, aussi gentiment que possible, mais enfin. c'est fantastique. Quand pensez que le titre même, qui est le titre officiel, qui est écrit sur la chaise, le trône du pape, vicaire du Fils de Dieu, c'est l'équivalent grammatical de antichrist. Si on donne antichrist à la place de, vicaire du Fils de Dieu, c'est fantastique. Et un détail supplémentaire, qui est un détail amusant, on ose à peine le dire, moi je n'oserais pas le dire dans une réunion publique, parce que ça aurait l'air d'être une attaque trop virulente, mais en latin, ce titre, Vicaire du Fils de Dieu, qui est écrit sur le trône du pape, Vicarius Filii Dei, faites le compte en chiffre romain, de toutes les lettres, Vicarius Filii Dei, ça fait 666. C'est ce qui est écrit sur ce. Mais ça a quelque chose de vraiment prodigieux, ça. Comme correspondance dans le détail. Alors, je dois dire qu'au 16e ou 17e, j'aurais pas hésité d'une seconde, hein, je vous aurais dit, c'est lui, l'antichrist. Bon, il y avait quelques autres spéculations qui s'y mêlaient, qui, elles, étaient, je crois, assez mal fondées. Nous en rendons compte maintenant, c'était des spéculations sur les jours de Daniel 12, du dernier chapitre de Daniel. Il y a des chiffres assez énigmatiques, très énigmatiques. Et alors, certains essayaient de calculer la fin du monde à partir de moment où la papauté avait pris le pouvoir temporel, etc. Mais ça, c'était assez mal conçu, je pense. Mais enfin, il y avait un nombre de correspondances qui était assez détourné. Alors, depuis que la papauté s'est réformée, et que, malgré tout, elle semble avoir retenu, sans trop les adultérer, certains traits d'orthodoxie, nous hésitons à faire cette identification, il n'y a pas de doute. Mais elle reste toujours un peu quand même dans un coin de mon esprit.
En tout cas, il y en a qui se disaient qu'à loin de l'histoire, pour se porter à l'avenir, pour dire que l'Europe de 9 deviendra l'Europe de 10, c'est l'Europe occidentale qui deviendra vraiment la puissance mondiale avec un chef. Donc, Rome requiert sa puissance antérieure avec un empereur et le pape, si possible.
Oui, alors là, il y a peut-être une jonction entre la deuxième interprétation que j'évoquais tout à l'heure, en annonçant qu'il y en a deux précises, peut-être une jonction avec la première, l'idée du pape. Mais enfin, quand même, en gros, elles sont séparées, les deux interprétations. Ou bien c'est le pape, dit-on, disait-on, ou bien alors maintenant, disent beaucoup d'évangéliques, c'est un leader politique qui doit surgir dans un empire romain reconstitué, mais alors on le conçoit surtout sous l'angle politique. Alors là, c'est très très souvent une thèse affirmée que l'empire romain doit se reconstituer avec 10 nations, 10 dictateurs qui remettent leur pouvoir, d'après les chapitres de l'Apocalypse, à la bête, à l'Antichrist, donc 10 dictateurs qui se liguent et qui finalement se trouvent donc soumis à l'autorité d'un dictateur suprême qui domine d'abord l'Europe et qui ensuite domine sur la terre entière. J'ai ici, je crois, un petit schéma, voyez, qui est établi il y a déjà longtemps, hein, sur cet empire romain reconstitué. Les États-Unis d'Europe et d'Asie, vous voyez, c'est un digest de ces conceptions prophétiques, avec donc les pays qui faisaient partie de l'Empire romain, qui sont repris là. Ma grand-mère, par exemple, adhérait à ce type d'interprétation. D'ailleurs, ça vient de sa bibliothèque. Ma grand-mère était persuadée que si l'Allemagne s'était divisée, par exemple, c'était là, en liaison avec cette reconstitution de l'Empire romain. Bien pas sur cette carte-là, en fait. La frontière ne correspond pas à la frontière entre République fédérale et République démocratique allemande. Enfin, elle considérait la frontière de l'Empire romain a quand même un peu fluctué, et on pourrait dire qu'en gros, l'Allemagne de l'Est était plutôt en dehors de l'Empire romain, dans ses frontières, et l'Allemagne de l'Ouest y était incluse. Elle prophétisait aussi, quand il y avait des mouvements séparatistes écossais, que c'était l'annonce que l'Écosse se détachait de la Grande-Bretagne, parce que l'Angleterre faisait partie de l'Empire romain, mais pas l'Écosse. Alors elle pensait que ferait ainsi une telle séparation, sans doute pour la Roumanie aussi, elle l'interprétait, ou elle aurait interprété ces dernières années, l'indépendance de la Roumanie, indépendance relative en matière de politique internationale, aussi comme l'indice que la Roumanie se détacherait du bloc de l'Est pour faire partie du même ensemble, parce que la Roumanie faisait partie de l'Empire romain, etc. Vous voyez, ça c'est une interprétation donc qui est assez répandue. Empire romain reconstitué, puisque la bête c'est l'Empire romain, on ne peut pas douter dans l'Apocalypse, et bon, je pense aussi dans Daniel 7, donc Empire romain reconstitué, avec 10 nations, puisqu'on a alors littéralement les chiffres 10, et généralement alors le schéma temporel associé, c'est pendant 7 ans que cet antichrist régnerait sur le monde, et on pense pouvoir déterminer même les détails de sa politique, d'une part ce qui peut concerner sa guerre avec les Russes, si on interprète Gog et surtout le roi du Nord dans la fin de Daniel 11 comme la Russie en lutte d'abord avec l'Antichrist, et surtout sa politique à l'égard d'Israël. Israël rentré en Palestine, donc avec l'État d'Israël reconstitué, serait d'abord allié à l'Antichrist. Cette Europe des 10 avec l'Antichrist à sa tête ferait d'abord une alliance pendant 3 ans et demi avec Israël, et puis se retournerait contre Israël au milieu de la semaine, c'est ainsi que la fin de Daniel 9 est interprétée, et donc se muerait en adversaire de l'État d'Israël, avec un grand siège d'Israël, de Jérusalem pour finir, où ce serait la grande bataille finale.
Et là, pour reprendre ce que le père disait il y a un instant, il y a quand même quelque chose de, disons, de troublant dans le fait de ce dialogue nord-sud, et que si on trace une ligne qui partage le globe en deux dans ce sens-là, effectivement, on voit une accumulation de puissance et de technique et de puissance d'argent et de puissance militaire, etc., considérable autour, finalement, de l'Europe et de ce qui est sorti de l'Europe. Et c'est quand même assez singulier que l'effort de regroupement qui se produit aujourd'hui se produit à l'intérieur de l'Europe avec cette idée de faire une Europe unie. Alors, disons, indépendamment de la prophétie, il y a quelque chose qui se fait, et on comprend assez bien la tentation des rapprochements et des affirmations définitives.
On comprend extrêmement bien. Et on comprend aussi, par exemple, comment un bon nombre de gens dans les années 30 ont cru que Mussolini devait être l'Antichrist aussi.
Alors, ce qui est vraiment que l'Église catholique est associée géographiquement à cette puissance, enfin à cette puissance des pays du Nord, dans le dialogue Nord-Sud, et qu'elle a étendu ses ramifications partout, mais en s'appuyant, je dirais, à toute la puissance européenne à travers toute l'exploration du monde et toute la domination du monde et toutes les colonisations. Il y a...
Ah oui, oui, oui.